Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa Opondé.
Délocalisation des ressortissants congolais en Ukraine. Un collectif d'avocats polonais est mis en place afin de mener des démarches de régularisation du séjour des étudiants congolais venus d'Ukraine. Affirmation du ministère congolais des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire. Félix Tshisekedi appelle les députés provinciaux à s'approprier le programme de développement de 145 territoires. Le président de la République l'a dit hier à l'ouverture du séminaire de sensibilisation sur ce programme. Kageni Siri Wayo Raya est notre invité ce matin de la vendeuse de crédits d'appel téléphonique à l'université. Elle est devenue propriétaire d'une imprimerie et copropriétaire d'un car wash dans la ville de Butembo. Bonjour à tous. Le gouvernement congolais a mis en place un collectif d'avocats polonais en vue de mener des démarches de régularisation du séjour des étudiants congolais venus d'Ukraine et assurer leur inscription dans les universités polonaises, question de leur permettre de poursuivre les études. Selon le directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire, qui est en mission sur place en Pologne, environ 200 étudiants congolais sont concernés par ces démarches. Hubert Tetika affirme de la prise en charge de ses étudiants pendant 3 mois. On l'écoute, il est joint au téléphone par Piro et la Meji.
Nous avions d'ailleurs convenu hier à notre ambassade avec le conseil diplomatique du premier ministre polonais de demander à tous ses compatriotes de converger vers la ville de Lviv, d'où le gouvernement polonais assurera leur transfert vers la Pologne. Quant à ceux qui sont déjà sur place en Pologne, après avoir remarqué que 95% de ces groupes sont tous étudiants et qu'ils n'ont qu'un seul souhait, qui est celui de continuer leurs études, nous essayons donc de négocier l'octroi aux Congolais, étudiants, des permis de séjour à titre humanitaire, comme on le fait par exemple pour les malades. Nous avions bénéficié d'une oreille attentive de la part du conseil diplomatique du premier ministre polonais. C'est ainsi qu'en attendant, nous avions mis en place un collectif d'avocats polonais pour suivre ces démarches de régularisation et nous essayons de subvenir aussi aux besoins de ces étudiants au moins pendant 3 mois en termes de loyer, transport, survie et forfait pour les biens qu'ils ont perdus.
Pour les autres étudiants congolais qui sont encore en Ukraine, Hubert Tetika indique que le gouvernement polonais leur demande de rejoindre la ville d'Lviv à partir de laquelle ils seront rapatriés en Pologne. Il indique par ailleurs que 12 des étudiants congolais sont revenus hier soir de Belgique afin d'être intégrés dans ces démarches. Ici au pays, en Ituri, les souffrances des déplacés sont énormes dans le territoire de Djougou et nécessitent les interventions aux différents niveaux de responsabilité. En tout cas, c'est le constat fait par le représentant spécial adjoint en charge des affaires humanitaires à l'issue de sa première visite dans certains sites, dans cette entité territoriale. De leur côté, ces personnes sinistrées attendent de leur hôte de faire les plaidoyers au gouvernement et ses partenaires pour atténuer leur misère, mais surtout restaurer la paix en Ituri. Le point avec Isaac Rimo.
Le représentant spécial en charge des affaires humanitaires Bruno Lemarquis s'est rendu tour à tour au site d'Englais, de la plaine de Savo, centre commercial de Boulé, et au site de Loda et de Djaïba qui hébergent au total environ 100 000 déplacés. Ces derniers se disent asphyxiés par la présence des miliciens de la Codeco proches de leur site, dont les menaces sont permanentes, ce qui les empêche de se rendre au champ. Ils se disent privés de tout. Pour eux, la visite de cette haute personnalité de l'ONU en RDC offre une lueur d'espoir pour l'accroissement de l'aide humanitaire et la pacification de la province, les présidents des trois sites de Boulé.
Trop, c'est trop. Aller faire les plaidoyers au chef de l'État, l'État des déplacés, c'est à la frontière directement où là, les assaillants peuvent venir à tout moment pour garantir la sécurité dans nos zones. Et je prierai demain ou lendemain, les humanitaires seront très nombreux et tout ce que les déplacés veulent, ils les auront.
Le représentant spécial adjoint en charge des affaires humanitaires a déclaré que les agences des Nations Unies et les ONG internationales font beaucoup pour se déplacer. Ils font l'intervention à tous les échelons pour répondre tant soit peu aux besoins croissants de se déplacer, ajoute-t-il. Bruno Lemarquis.
Il y a énormément de problèmes qui ont été rapportés. Beaucoup de souffrances. Déjà, il y a énormément d'organisations des Nations Unies qui sont présentes pour faire bouger les choses.
Pour se déplacer, la solution durable à la crise humanitaire en Ituri et le rétablissement de la paix, des retours des Djougou, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Parlons de ces sanctions imposées à l'homme d'affaires belge Alain Goetz par les États-Unis d'Amérique. Selon Brian Nelson, sous-secrétaire du département américain du Trésor, chargé du terrorisme et du renseignement financier qui séjourne à Kinshasa et ses compagnies, dont la raffinerie africaine d'or installée en Ouganda, sont impliquées dans l'exploitation illicite d'or de la RDC et qui finance les groupes armés dans l'est du pays. Brian Nelson l'a dit vendredi à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Brian Nelson est au micro de Paul Matendo.
Je suis heureux donc de vous annoncer que la nuit dernière, le Trésor américain a imposé des sanctions à Alain Goetz, qui est en fait la raffinerie d'or africaine qui est basée en Ouganda, aussi bien que les réseaux de toutes les entreprises impliquées dans les mouvements de centaines de milliards de dollars de commerce de l'or. Les conflits autour de l'or, en fait, ont fourni d'énormes ressources pour les groupes armés qui continuent à menacer l'espace congolais, la sécurité et la stabilité de ce pays. Nous avons donc réussi à sanctionner 8 entreprises de ces réseaux, dont 4 sont basées en Belgique, 3 sont basées dans l'Émirat Arabe Uni et une qui est en fait enregistrée aux Seychelles. Et en conséquence, tous les actifs de Goetz et toutes ses entreprises aux États-Unis d'Amérique ont été gelés.
Plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil des pauvretés multidimensionnelles à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes confrontés à des fortes inégalités socio-économiques. Rappel du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi hier samedi au Palais du Peuple devant les députés provinciaux de la RDC réunis dans un séminaire de 10 jours. Ce séminaire porte sur l'information, la sensibilisation et l'appropriation du programme de développement local de 145 territoires du Congo profond. Billy Yvan Lutumba nous en parle.
À travers ce séminaire, le gouvernement congolais sur initiative du président de la République attend voir les députés provinciaux être ceux qui vont porter cet ambitieux programme à une concrétisation efficiente et palpable quant aux résultats. Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre.
Il est attendu de la mise en œuvre de ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme des impacts réels perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à travers notamment le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire et l'accès des jeunes ainsi que des femmes aux activités génératrices de revenus des populations rurales.
Dans la foulée, Félix Tshisekedi affirme que depuis plus de 60 ans, la RDC peine encore à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène pour améliorer les conditions de vie de ses populations. Motif de sa détermination à travers laquelle il invite les députés provinciaux à s'en approprier.
Je demeure persuadé que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation en refondant notre État et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple.
Rappelons que le coût du programme est estimé à 1,66 milliard de dollars. Il sera financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo.
Ouverture hier également samedi à Goma, cette fois-ci dans la province du Nord Kivu, de la première conférence internationale sur la gestion des volcans des Virunga. C'est le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et représentant personnel du chef de l'État qui a lancé les travaux en présence de Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et de nombreux invités venus de l'intérieur ainsi que de l'extérieur du pays. Pour la MONUSCO, cette première conférence constitue une opportunité exceptionnelle d'échange scientifique entre vulcanologues et autres acteurs clés pour déterminer et établir les priorités de renforcer la capacité de l'OVG et comment prévenir les éventuelles éruptions des volcans des Virunga. Et surtout, qu'on a eu à observer certaines failles par rapport à la gestion au moment de l'éruption du Nyiragongo le 22 mai de l'année dernière. Mais c'est quoi? Et pourquoi l'implication de la MONUSCO dans ces assises? Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général, répond à cette question de Mathieu Ilunga.
nous saluons l'initiative qui a été prise par le gouvernement. La gestion du volcan est une affaire qui concerne non seulement le gouvernement congolais, mais qui intéresse également, qui implique la région, mais également la communauté internationale. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une présence assez remarquable de scientifiques venant de tous les horizons du continent. Et nous avons nous-mêmes, au niveau de la MONUSCO, un représentant scientifique, un expert qu'on a dépêché. Je pense que le gouvernement a été extrêmement visionnaire en regroupant tous les scientifiques pratiquement du monde entier pour réfléchir de façon scientifique comment gérer une prochaine éruption, parce qu'on parle de cela, la surveillance, mais également lorsqu'il y a éruption, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que la dernière éruption de 2021 a montré qu'il y avait des défaillances dans le système et cette conférence tombe à point nommé. Nous allons contribuer au débat, aux discussions, et c'est déjà un très très grand pas. Nous verrons comment est-ce que notre contribution pourra être améliorée sur la base des recommandations qui vont émaner de ces assises.
Notez qu'en dehors du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et de celui de la recherche scientifique, plusieurs autres membres du gouvernement congolais prennent part à cette conférence, notamment celui de l'enseignement supérieur, le ministre de l'Industrie ainsi que le ministre de la Santé. Lancement hier, samedi, à Mbandaka, de la campagne « Pas une école sans banc en RDC », un projet appuyé par le Fonds de promotion de l'éducation nationale, FPEN, en vue de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public. La campagne a été lancée par le ministre de l'EPST, arrivé hier samedi à Mbandaka, en présence du gouverneur de l'Équateur et d'autres autorités du Grand Équateur. Plus de précisions avec Paul-Richard Malingela.
Parmi les efforts induits de la gratuité à l'Équateur, il y a l'afflux des élèves dans les écoles et par conséquent les difficultés de leur accueil. Aussitôt arrivé en Mbandaka, le ministre de l'EPST Tony Mwaba a procédé d'abord à la remise symbolique de 100 bancs à l'EP Kipoy en soutien à la gratuité. Ceci dans le cadre de la campagne « Pas une école sans bancs » qu'il a initiée avec l'appui du FPN.
Vous savez que un début, nous avons dit que c'était une campagne. Ça s'arrêtera les jours où nous rassurerons que il n'y a plus d'école sans banc à la République démocratique du Congo. Il y a déjà 1000 bancs. On va cibler des écoles. Nous allons donner pour la première vague et la deuxième.
Avec une joie immense, le gouverneur de l'Équateur a reçu le premier lot en attendant le complément des 1000 bancs prévus pour sa province. Mais autant pour la fabrication de ces bancs que pour la construction ou réhabilitation scolaire, Dieudonné Boboloko a plaidé pour le recours à la main-d'œuvre locale.
L'école que vous voyez ici, c'est comme l'école qu'on vient de construire il y a de cela une année. Mais l'école a fait maintenant plus de 20 ans. C'est pour dire qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent bien construire les écoles au lieu de nous amener des entreprises de Kinshasa.
Notons que le ministre de l'EPST conduit une forte délégation des animateurs de son secteur. Après le Congo central et l'ex-Bandundu, a dit le professeur Tony Mwaba, il est arrivé le temps pour le Grand Équateur d'avoir des réponses à toutes les préoccupations relatives à la gratuité prônée par les chefs de l'État. Mbandaka, Paul Chomalingé, la Radio Okapi.
À Butembo, au Nord Kivu, plusieurs veuves et orphelins des enseignants décédés ne touchent pas la rente de leur père. D'après Irénée Moutoumoua, secrétaire permanent local du syndicat des enseignants du Congo qui alerte, lorsqu'un enseignant est décédé, sa famille doit en principe toucher la totalité de son salaire jusqu'à 6 mois après. Et c'est le cas dans toutes les banques, mais les veuves et orphelins de Butembo, dont les salaires des maris et pères transitent par la TMB, ne sont plus servis depuis 2019. Le secrétaire permanent de la CIECO Butembo en appelle à l'intervention des autorités compétentes. Irénée Moutoumoua l'a dit à Sadiki Aboubakar.
Depuis 2019, il y a d'ailleurs même des temps antérieurs, vraiment un grand nombre de décédés ne sont pas servis à la TMB. Il n'y a que la TMB qui ne s'est pas servie parce que Rawbank et Equity Bank sont en train quand même de s'efforcer de payer progressivement le salaire posthume une fois la déclaration de décès déjà approuvée. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Nous avons décrié cela depuis des années. La TMB n'a pas vraiment de raison parce que plusieurs fois nous avons vu le gérant et nous dit bon voilà c'est Kinshasa qui ordonne. Nous avons écrit à Kinshasa, nous avons même écrit à l'ordinateur délégué, lui, à le service technique s'est coupé, mais il n'y a pas de suite. Le problème pour notre compréhension est local parce que le compte des enseignants décédés continue à être alimenté jusqu'à ce que le décédé soit remplacé par celui qui va continuer la charge.
Contacter le gérant de la TMB Boutembo dit ne pas être au courant de cette situation. Il invite toutefois la CIECO à ramener tous les documents nécessaires en vue de traiter les dossiers au cas par cas.
Actualité internationale.
Alger a annoncé le rappel immédiat de son ambassadeur à Madrid, selon un communiqué cité par les médias officiels du pays. Cette décision survient après des déclarations du chef du gouvernement espagnol constituant, explique l'Algérie, un brusque revirement de position sur la question sensible du Sahara occidental. Pourtant très dépendante des fournitures de gaz naturel algérien, l'Espagne a soutenu pour la première fois vendredi la position du Maroc d'un plan d'autonomie pour cette région disputée du Sahara occidental. Madrid avait jusqu'ici toujours prôné la neutralité entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario.
L'invité.
Notre invité s'appelle Kageni Siri Wayo Raya, de la vendeuse de crédit de téléphonie cellulaire à l'université. Elle est devenue propriétaire d'une imprimerie dans la ville de Boutembo. Elle dirige également un car wash initié en 2016 avec trois de ses camarades étudiantes juste après l'obtention de leur diplôme de licence. Il n'y a pas de ce métier, il n'y a que de saut de champ. C'est en ces termes qu'elle encourage d'autres femmes à oser entreprendre. Sadiki Aboubakar l'a rencontrée. Suivez leur entretien.
Kaini Siroyo Raya, bonjour.
Bonjour.
Tu as terminé tes études en économie rurale à l'Université catholique de Graben en 2016.
Ouais.
Juste après, tu as commencé avec un secrétariat public, une bureautique.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que ça a donné?
Ça a donné au moins une grande entreprise. Aujourd'hui, je suis devenue à une imprimerie.
Ah, d'accord.
Qui est reconnue dans la ville de Boutembo.
Voilà. Donc, ouais. Tu étais étudiante. Du coup, une bureautique ou un secrétariat public, où est-ce que tu as eu le moyen?
Bon, je peux dire qu'avant d'ouvrir le secrétariat public, je vendais les unités à l'université. Oui. Et cet argent, c'était mon enjeu
d'affaires académiques.
Oui. J'avais ma machine, j'avais quelque chose que j'ai gardé à la banque. C'est à partir de là que j'avais le secrétariat question.
Et du coup, tu as pris le goût de l'entrepreneuriat.
Oui, c'est ça. Donc, c'était même bien avant, j'avais commencé. Quand j'étais même petite fillette comme ça,
oui.
Je vendais les cannes à sucre, des arachides, des choses pareilles.
À la criée.
Oui, à la...
Ça, c'est intéressant.
Oui.
Donc, tu as commencé à connaître l'argent un peu tôt, quoi.
Mais c'est un peu ça.
Et quelles sont les difficultés que tu connais dans la gestion de cette imprimerie, par exemple?
Nous avons d'abord les difficultés sur le niveau des taxes.
Il y a une
sorte de tracasserie au niveau de ces taxes, des impôts, des choses pareilles.
Donc, il y a une multiplicité de taxes.
Oui. Des fois, ça décourage, oui. Et puis, ils viennent chez nous. Ils ne peuvent pas nous expliquer ce que...
Donc, ils vous sensibilisent pas. Voilà, ils vous sensibilisent pas par rapport à telle ou telle autre taxe.
Non, lorsque
vous faire comprendre le bien fondé.
Non, lorsque vous voulez leur parler, ils nous disent, ok, si vous ne voulez pas, vous allez nous suivre à notre bureau ou bien...
Vous allez payer des pénalités.
Oui, des choses pareilles.
Ça vous fait peur et...
Bien sûr que oui, lorsque vous n'avez pas de moyens, ça peut vous emmener aussi la peur. Et une autre difficulté, beaucoup de nos entreprises, les ONG, autres, ils partent imprimer par exemple à Kampala. Et pourtant, le même service qu'on fait à Kampala, sur nous envoyons ici.
Vous offrez le même service sur place.
Et, oui, sur place.
Pourquoi? Alors, c'est pour des qualités de service ou pompe des prix ou...
On ne sait pas, on ne sait pas. Parce que,
je pense des confiances également.
Des choses pareilles.
Alors, au-delà de l'imprimerie, vous êtes également présidente d'une autre entreprise qu'on appelle BRAP. Qu'est-ce que signifie BRAP?
BRAP, c'est les initiales de nous. Nous sommes un nombre de quatre
filles. Des associés?
Des associés.
Quatre filles?
Oui. Il y a Pancias, Astrid, Bertil et Raya. Oui.
Franchement, c'est depuis quelle année?
Non, c'est depuis 2016.
Depuis 2016.
En février. C'était juste après nos études, on s'est demandé est-ce qu'on va chaque fois rester toujours à la maison, parce qu'on ne peut pas créer avec...
Toutes les quatre filles, vous avez terminé ensemble?
Oui, il y a une qui était à l'IOR.
Vous avez réfléchi pour effectivement créer de l'emploi?
Oui.
Alors, aujourd'hui, c'est entreprise, que j'ai visitée, je trouve qu'elle est déjà grande.
Nous sommes dans la rue Kinshasa, juste en face de la galerie Mbanga de la rue Kinshasa.
C'est un vaste étendue. Est-ce que vous payez la location ou bien c'est votre parcelle ou comment?
Bon, au niveau des locations, nous disons encore merci au propriétaire de la parcelle.
Oui.
Juste depuis 2018, on ne paye pas.
Il vous a donné...
Il nous a dit bon, parce que vous avez le courage et comme vous n'avez pas où aller.
C'est un soutien.
Vraiment, c'est beau parent pour nous. Vraiment.
Parce qu'effectivement, vous avez créé du travail. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui sont là, en train de laver les véhicules tous les jours. Ils trouvent de quoi manger, de quoi nourrir leur petite famille à partir de ce que vous avez initié.
Notre souci d'abord, c'était que ça soit élevage féminin.
Ah d'accord, il n'y aurait que des femmes.
Des femmes.
Franchement, ça c'est discriminatoire.
Alors, non, on avait essayé de sensibiliser. Et beaucoup de dames nous disaient que non, leurs parents n'ont pas accepté. Mmh. D'autres, leurs fiancés. Mmh. D'autres, ils ont honte de le faire.
Donc, la vision du lavage féminin a carrément échoué.
Oui, ça a échoué vraiment.
Par rapport à ces lavages que vous tenez depuis 2016, quelles sont les difficultés également?
La première, c'est toujours les taxes.
Évidemment, c'est pas mal de payer les taxes, mais
oui, c'est quand pas c'est mal, mais c'est trop exagéré. Et il y a d'autres aussi, surtout la régie des eaux, c'est compliqué.
Quel message est-ce que tu peux lancer à d'autres jeunes filles ou d'autres femmes qui nous écoutent à ce moment par rapport à la capacité de la femme?
Il n'y a pas de son métier, mais il y a des autres gens. Parce que nombreux venaient à licencier. Ils viennent de terminer à l'ICG, ils font ça, ils font ça. C'était vraiment de la honte.
Vous avez bravé ça.
Un homme aussi peut être encouragé par ton effort.
Kaini Siroayo Raya, très bon vent.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.